nous sommes dans une région quand même du Brabant wallon, qui est une des régions qui est dans les plus riches de Belgique. Où on pourrait se dire, mais est-ce que les gens ont besoin de l'Évangile? Ils ont tout. Alors je ne parle pas de tout le monde, bien sûr. Il y a de toutes les catégories sociales, mais je veux dire la majorité semble riche, bien portant, avec des connaissances. Il y a Louvain-la-Neuve qui est pas loin d'ici, il y a toute cette université. On a des gens qui travaillent sur Bruxelles, qui travaillent dans les hautes institutions européennes, qui habitent dans ce Brabant. Et on pourrait se dire, mais qu'est-ce que ces gens ont besoin? Ils semblent avoir tout. Et peut-être même au niveau de l'évangélisation, on semble découragé en se disant, mais qu'est-ce qu'on pourrait encore faire? On a déjà essayé tant de choses. Est-ce qu'il est encore possible de faire des choses? Et je me suis aussi rendu compte qu'on avait une caractéristique en plus dans cette région. C'est, on connaît bien les caractéristiques de l'eau. L'eau. Je ne sais pas si vous savez ce qu'il y a à Genneval, ce qui existe à Genneval, il y a le musée de l'eau. Donc on connaît les bénéfices de l'eau qu'on peut boire, l'eau qui porte les bateaux, l'eau froide en général, mais il y a aussi l'eau chaude. Il y a beaucoup de plus en plus même d'ailleurs, surtout dans ces régions-ci, des centres balnéothérapie, où les bains, les eaux chaudes, les bains à bulles, etc. On pense par exemple, ici pas loin, il y a le château de Limlet, hein, qui est pas loin, à Genneval aussi, au château de Genneval, dans l'hôtel, il y a aussi un centre balnéo. La Huple Dolce fait aussi balnéo. De plus en plus d'hôtels ajoutent cet élément-là pour qu'on puisse rester à l'hôtel et simplement se détendre. Parce que les gens ont une vie très stressée et ce qui leur manque souvent, c'est ces effets apaisants de l'eau. Et l'eau est là aussi, par exemple, dans les camps, on utilise beaucoup l'eau aussi pour le loisir, pour s'amuser. On s'arrose, on fait des combats d'eau, des ballons d'eau. Enfin, l'eau fait partie de nos vies, elle est même en nous, hein, en grande partie, je crois, 70%, je sais pas s'il y a des médecins, quelque chose comme ça. Voilà, l'eau fait partie de nous, elle est en nous. Et toutes ces caractéristiques, c'est intéressant de voir que dans la Bible, il y avait une église qui avait un petit peu les mêmes caractéristiques. Et j'aimerais qu'on aille voir ce que le Seigneur leur dit, justement, dans Apocalypse 3, les versets 14 à 22. Voilà, c'est affiché. On va le lire. Peut-être est-ce que, pour pas que je parle trop, quelqu'un pourrait lire, quelqu'un qui aime lire, qui a le don de la lecture, qui pourrait nous embellir ce texte. Quelqu'un qui aime lire? Bien fort, bien haut. Voilà. Rien que ce texte nous parle. Je ne sais pas si vous voudrez en ajouter beaucoup, mais on pourrait prendre juste le temps de le relire quelques fois et de se laisser toucher par ce que Dieu veut nous dire. Parce que nous faisons partie de ce même contexte. Mais j'aimerais quand même souligner dans ce texte trois caractéristiques, particularités de cette population à la Odyssée, là où se trouvait l'Église. Tout d'abord, première particularité que nous voyons dans le texte, c'est sa richesse. C'est un endroit qui est très riche, et c'était une des régions les plus riches de la province d'Asie, et grâce au textile. Ils avaient des vêtements, ils avaient des choses qui les rendaient riches et qui permettaient à travers toute cette industrie du textile d'avoir beaucoup de richesses au point où même à un moment la ville va être détruite et où il y a de l'aide qui pourrait être amortée. Je pense que c'était des Romains qui ont voulu les aider. Ils ont même refusé en disant non, nous allons nous en sortir par nous-mêmes. N'est-ce pas un peu la mentalité ambiante dans nos pays, dans notre région? On va s'en sortir par nous-mêmes, peu importe les catastrophes de nos vies, tout ce qui peut se passer autour de nous, la crise qu'on parle, on va s'en sortir par nous-mêmes. Deuxième aspect, nous voyons aussi au niveau de l'eau. Tu n'es ni froide, ni bouillante. Là-bas aussi, dans cette ville, on connaissait les bienfaits. Il y avait des sources d'eau chaude, des sources d'eau froide qui étaient utilisées. Et là, il est en train de leur dire, vous savez très bien que le froid et le chaud peuvent être bénéfiques, mais être entre les deux, ça n'apporte pas grand-chose. Ça ne produit rien. Parfois, on voit ce texte aussi sur le chrétien qui est froid ou bouillant, mais aussi là-bas, il y avait cette image, le froid peut aussi avoir des bénéfices, le chaud peut avoir des bénéfices, mais entre les deux, ça n'apporte que peu de choses. Il voyait aussi des bénéfices en termes de guérison, en termes de soins dans ces eaux. C'est tout ça qu'apportait l'eau dans cette région. Une dernière chose qui existait aussi dans cette région, en se renseignant un petit peu, c'était le baume de Phrygie, si je ne me trompe pas. Un baume qui mettait, donc il y avait un peu des médecins des yeux qui avaient trouvé un baume qui pouvait aider aussi au niveau de la vue. Et on voit que le Seigneur, quand il leur parle, il s'adresse en fait à toute leur force. Tout ce qui vous semble fort et important pour vous, qui semble vous aider à vous en sortir, en fait, il vous manque encore quelque chose. Il leur dit quoi? Pour reprendre... je vais reprendre ici. Sinon... Il leur dit quoi ? Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ça, c'est comment le Seigneur les voit. Voilà comment le Seigneur les voit. Eux, ils se pensent riches, ils pensent qu'ils ont toutes les solutions pour tout. Mais comment le Seigneur les voit ? En fait, ce qu'il est en train de décrire, c'est quoi ? Ce qu'on ne voit pas. Leur situation spirituelle. Et souvent, quand on se lance dans l'évangélisation, quand on veut aider les gens, très vite, on se sent limité. Qui suis-je, moi, pour changer une personne ? Qui suis-moi pour convertir quelqu'un ? Peu importe la région, même mon frère, je vois que mon frère est peut-être tombé. Qui suis-je, moi, pour arriver à le faire changer ? Face à ces situations qui nous semblent impossibles, face peut-être à une maladie, face peut-être à une personne qui ne nous écoute plus. Très rapidement, honnêtement, comment nous sentons-nous ? Nous nous sentons comme cela. Malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Nu de solution, misérable face à sa situation à elle, et de me rendre compte que moi-même, dans ma propre vie, combien il y a de choses que j'aimerais changer et que je n'y arrive pas, et où je me sens pareil spirituellement. Je me dis, mais qu'est-ce que je peux encore faire pour moi-même, pour l'autre ? Le Seigneur m'a donné une image que j'aimerais vous transmettre. C'est pour ça qu'il y a ce verre. Pour ceux de l'Église, je l'ai déjà utilisé, mais je vais aller un petit peu plus loin. Donc, vous pouvez participer, mais j'avais déjà utilisé, j'aime beaucoup cette image du verre, et quand je peux l'utiliser, j'utilise, parce que c'est très parlant, surtout qu'après, il y a une agape. Donc, je sais que vous vous souviendrez de mon histoire pendant tout le repas. Qu'est-ce que ce verre représente pour vous, spontanément ? Un récipient. Quoi d'autre ? Qu'est-ce que ça vous fait penser ? C'est intéressant aussi de voir les réponses. Ça indique aussi la vision des choses de chacun dans l'Église. Il y en a qui voient un récipient, il y en a qui vont dire d'autres choses. Donc, sentez-vous libre, il n'y a pas de bonne réponse. Chacun a une vision différente, justement, de ce verre. Pour boire, intéressant, oui. Pour l'eau, on pense à l'eau, hein, on a parlé pas mal de l'eau. Donc, le lien est facile. Transparent, intéressant, ça, hein, ces termes qui viennent. Attends, une à la fois. Fragile, intéressant. Ah, pour se rafraîchir, j'avais compris fragile, parce que fragile aussi, s'il tombe, il peut casser. Mais pour se rafraîchir, oui. Les mains qui l'ont faite, ça c'est intéressant, celle-là on ne me l'a jamais dite. De penser plus loin derrière encore, on ne pense pas juste à l'aspect là, oui. Nécessaire tous les jours. Hein, mais... D'autres choses ? Ça c'est la structure, oui. De quoi c'est composé ? Alors, ça c'est un petit peu, il y a eu différents aspects. Il y a ce qu'on peut mettre dedans, à quoi il peut servir. Si on pense à, par exemple, de l'eau qu'on peut mettre dedans, à quoi vous fait penser cette eau ? D'autres choses, d'autres éléments qui vous viennent plus symboliquement ou... Voilà, on a parlé de rafraîchir, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent ? Par rapport au contenant, plutôt. Enfin, contenu. À vivre, la vie, intéressant. D'autres choses ? Là ? La soif, le fait d'avoir soif. Heureux ceux qui auront soif, dit la parole. Le plaisir. Alors, intéressant cette transition. Est-ce que ce verre peut être que positif ? Parce qu'on a parlé de vie, on a parlé de rafraîchissement, on a parlé de besoins quotidiens. Donc ce qui est dedans, ce verre, apporte du positif en général. Mais est-ce qu'il peut apporter aussi du négatif ? L'alcool ? L'ivresse, oui, donc... L'alcool, on peut mettre un peu d'alcool, c'est pas trop grave. Il y a parfois, on peut boire un petit verre de vin, mais ça peut amener à des dérives. Il peut y avoir des choses qui peuvent, voilà, oui, d'autres choses. Trop chaud. Pardon ? Oui. D'autres, on a parlé d'alcool, mais est-ce qu'il peut y avoir autre chose ? Poison. On peut même avoir de l'eau dedans, mais il suffit d'une goutte de poison et ça change tout. Donc, qu'est-ce qui va faire que ce verre va être positif, apporter la vie, ou va pouvoir être dangereux ? Son contenu, ce qu'il y a dedans, ce que je mets dedans. Alors la question qui suit, c'est, si ça c'est ma vie, mon cœur, qu'est-ce que je mets dedans ? Qu'est-ce qu'il faut que je mette dedans pour apporter la vie? Qu'est-ce qu'il faut que je mette dedans pour apporter la mort? Parce que la parole nous parle de deux choix. L'amour. Et d'où ça vient l'amour au final? De Dieu. De Dieu. Mais il faut faire attention parce que je peux commencer à mettre de bonnes choses dedans, mais si je commence à laisser rentrer d'autres choses, ça peut aussi devenir dangereux. Et la question que j'aimerais nous poser ce matin, c'est avec quel verre je suis venu ce matin devant Dieu? Est-ce que je suis venu peut-être avec un verre vide, en disant « Seigneur, j'ai tellement soif de toi, remplis-moi. Je me sens sec, j'ai besoin que tu me remplisses. » Ou peut-être, il y avait déjà quelque chose dedans, mais qui n'était pas Dieu. Je suis venu avec beaucoup de choses, peut-être des peurs, des craintes, des doutes, des vices, des blessures, des choses qui ont rempli ma vie et qui n'ont pas encore été réglées et qui empêchent peut-être que le Seigneur remplisse davantage ce verre. Parce qu'il est déjà rempli. Peut-être tout simplement dans ce verre, il y a moi qui est déjà là. Il n'y a plus de place pour lui. Qu'est-ce qui remplit? Qu'est-ce qui m'obsède? Qu'est-ce qui dans ma vie remplit ma vie? Peut-être parfois c'est l'argent parce que j'ai peur de manquer. Alors je remplis d'argent et l'argent tourne. Parfois c'est j'ai tellement de secrets que c'est le mensonge. Hein, ça cache tout, ça remplit tout et on ne voit pas ce qu'il y a dedans. Pardon? La foi. Ça, c'est ce qu'on est appelé à le remplir, de la foi. Alors, tout simplement, je crois qu'il y a un temps de questionnement, peut-être simplement se poser la question une minute, de se dire, qu'est-ce qui remplit ma vie pour le moment? Et peut-être de continuer de se réfléchir à ça. Chaque fois que vous prenez un verre, le matin, le soir, après, tout à l'heure, à la gare, qu'est-ce qui remplit ma vie? Et la deuxième chose qui est aussi intéressante, c'est quand je regarde mon voisin. Ça, c'est mon voisin, à côté de moi, ici. Qu'est-ce que je vois? Est-ce que je vois quelqu'un qui apporte la vie? Est-ce que je vois quelqu'un de dangereux? Est-ce que je vois quelqu'un qui peut me remplir aussi? Qui peut m'aider? Et on se remplit l'un l'autre et au final, on va vers Dieu peut-être ensemble aussi pour être rempli. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je perçois chez lui? Qu'est-ce qu'il pourrait m'apporter? Qu'est-ce qu'il pourrait apporter à Dieu? Qu'est-ce qu'il pourrait apporter aux autres? Comment je le vois? C'est un exercice, je pense, intéressant aussi à faire. Parce qu'au final, le respect aussi, respecter la différence, parce qu'on peut avoir différents verres aussi, ça peut être intéressant. Je n'ai pas été si loin, mais ça peut être intéressant de voir les différents traits. Hein, il y a parfois des plus grands contenants, plus petits que d'autres. Et la paix. Mais tout ça, on va y revenir. Tout ça m'amène à la question, quel est le but de notre vie en tant que chrétien et en tant qu'église? Quel est notre but? À quoi nous sommes appelés? À servir Dieu, à le glorifier. Et comment je le glorifie? Comment je fais? Qu'est-ce qu'il m'a demandé? Qu'est-ce qu'il a demandé aux premiers chrétiens? Quels étaient leurs objectifs à eux? De? Là? Une mission. Et quelle était cette mission qu'il a demandé aussi au peuple d'Israël? Rendre témoignage. Exactement. Acte 1, chapitre 8. Que vous soyez. On peut le prendre, acte 1, chapitre 8, parce que ça va être la suite du message, c'est pas le tout de... On va pas juste parler du verre. On va voir à quoi va servir ce verre. Acte 1, chapitre 8, je sais pas si peut être... verset 8, acte... Chapitre 1, verset 8. Est-ce qu'il va être... Je suis l'affiche? Désolé, je n'aurais pas dit... Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà ce que Jésus demande à ses disciples. On a parlé tout à l'heure des disciples, on a parlé des amis, on a parlé de tout ça. Voilà ce qu'il leur est demandé, voilà ce qui devrait remplir nos vies. Ça devrait être un des objectifs. Nous sommes appelés à être témoins de Christ, à être quoi? Porteurs de sa parole. Porteur de sa révélation, porteur de Christ. Parce que Christ est quoi? Et c'est intéressant pour faire... La Bible ne se contredit pas, au contraire, elle se complète. Nous devons être porteurs de Christ. Et Christ, il est quoi? Je reviens dans Apocalypse, je vais juste revenir pour souligner le terme utilisé dans le premier verset que nous avons lu. Voilà, bah, il affiche super. Il suit bien. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Qui est l'Amen? Jésus, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création. Jésus lui-même est le témoin fidèle et véritable. C'est lui que nous devons porter en nous. C'est comme ça que nous devenons témoins. Nous-mêmes, nous ne sommes pas témoins, nous sommes des humains, et la Bible nous dit que nous sommes pécheurs. Mais en portant en nous le témoin fidèle et véritable, nous portons comme dans ce verre, aux autres, voici le témoin fidèle et véritable. Voici Jésus. Un témoin, c'est quoi? Ça, c'est intéressant aussi. Qu'est-ce qu'un témoin? Et là, je reviens dans Acte 1. On va lire simplement les versets 1 et 2. Acte 1, les versets 1 et 2. Et nous irons aussi au verset 21. Il nous donne quelques aspects des témoins. Qui a été choisi pour témoigner? Qui a été choisi pour témoigner? Acte, chapitre 1, les versets 1 et 2. Théophile, j'ai parlé dans mes premiers livres de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Qu'est-ce que fait un témoin? Il parle ou il? Dans mon premier livre, comment nous on a su? On parle des gens qui parlent, mais aussi comment nous pouvons savoir? On a la grâce, nous, d'avoir quoi? Écrit un livre. C'est grâce à ces témoins qui ont écrit que nous pouvons avoir, nous, aujourd'hui, accès à tout. À quoi? À ce que Jésus a fait, a commencé à faire, et a enseigné dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé. Donc c'est des gens, les témoins, c'est des gens qui ont vu ce que Jésus a fait, savent ce que Jésus a fait, et connaissent son enseignement. Ça, c'est une première base. Plus loin encore, au verset 21, acte 1, 21, parce que malheureusement, un de ces témoins est tombé. Hein? Judas est tombé et il faut le remplacer, il faut trouver quelqu'un d'autre qui va pouvoir être témoin. Et donc on donne un peu, comme quand on choisit quelqu'un, on embauche quelqu'un, il y a un descriptif de qui on doit prendre. Et voilà ce qu'ils disent. Il faut donc parmi ceux qui ont accompagné tout le temps que le Seigneur Jésus a été avec nous, ouais, et il y a le 22 aussi, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il fut enlevé du milieu de nous, il y ait un qui soit associé comme témoin de sa résurrection. Il faut quoi aussi? Il ne faut pas juste savoir ce qu'il a fait. Il ne faut pas juste connaître son enseignement. Les pharisiens le savaient. Tout ça, ils le savaient. Ils l'avaient vu agir et ils connaissaient son enseignement. Et d'ailleurs, ils le reprochaient. Ce qu'il y a en plus, c'est qu'il fallait vivre avec lui. Il y a cette vie avec lui qu'il doit avoir et qui doit faire partie de nous. Alors, ma question derrière. Comment nous, aujourd'hui, alors qu'il n'est pas là? Les disciples avaient la chance qu'il était là. Il est même, après sa résurrection, il est encore venu les voir après, avant de les envoyer. Comment nous, aujourd'hui, on peut faire pour connaître Jésus, pour être son témoin? Comment? Comment pouvons-nous faire? Connaître la parole, connaître l'histoire qui est notée dans les évangiles, savoir par où il a commencé. Et même l'Ancien Testament peut déjà nous parler de tout ce contexte qu'il y a eu derrière. Mais d'abord, connaître son histoire et connaître ses enseignements, il faut les connaître. Ça, c'est une première chose, en lisant sa parole, en connaissant, en ayant vraiment cette connaissance. Mais ça ne suffit pas. Il y a une deuxième chose qu'il faut, que j'ai dit, c'est quoi? Il faut le connaître, lui, personnellement. Et comment est-ce qu'on connaît quelqu'un? Vraiment? Il faut? En prier, en vivant avec. Mais comment on vit avec Jésus qui n'est pas visible pour le moment? En priant, dans la prière, dans cette prière avec lui. Le temps de prière est très important. La prière, la vie de prière est essentielle. Et nous allons le voir encore plus loin comme cette vie de prière est importante. Parce que les disciples avaient tout ça. Ils avaient vécu avec lui. Ils avaient reçu son enseignement. Mais il leur manquait encore quelque chose. Que leur dit le Seigneur avant de les envoyer? Il donne la mission et qu'est-ce qu'il dit avant? Vous allez recevoir une puissance. Ça veut dire qu'ils avaient déjà, ils étaient prêts à être témoins, mais il leur manquait encore quelque chose. Ils avaient besoin de cette puissance. Donc on peut être un témoin, mais on peut être vide aussi. Vous savez, il ne suffit pas de mettre juste une étiquette Jésus ici devant, en disant, voilà, je fais partie de Jésus, je fais partie de son groupe, comme on met même le poisson sur la voiture, en disant, voilà, Jésus, je le connais. Ce n'est pas ça. Parce que tant que le verre, il n'est pas rempli de Jésus, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Ce n'est qu'un verre qui ne peut pas apporter grand-chose. Et je ne sais pas où nous en sommes, nous, aujourd'hui, dans nos cœurs et dans notre connaissance de Jésus. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, avant même les actes, dans la fête des tabernacles, où l'eau, là aussi, était très importante, avait une valeur symbolique, Jésus, dans Jean, chapitre 7, au verset 37, voyez comme tout est lié, toute la parole est liée, on voit partout, que va dire Jésus? Dans cette fête où l'eau, les Juifs voyaient l'eau, et Jésus va profiter de ça pour apporter son message et pour dire qui il est, révéler qui il est. Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, si son verre est vide, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il renvoie ici déjà, alors qu'on n'est pas encore dans les actes, à la puissance des témoins, à cette eau qui va couler. Il y a ce même verset qui dit « Vous qui êtes fatigués, venez à moi ». Venir à lui. Comment connaître quelqu'un au final? C'est tout simplement en passant du temps avec lui, en prenant du temps avec cette personne. Et vous savez, parfois dans la vie, on a eu des amitiés quand on était jeune, on a fait plein de trucs, on a bourlingué, on avait du temps, on faisait plein de choses, on se faisait des potes, on passait des heures avec eux, on les connaissait par cœur, on se bagarrait, on s'ennuyait, on se chipotait, mais on était serrés, soudés, et on se voyait, il y avait cette amitié forte qui était là. Puis la vie fait qu'à un moment donné, on se perd de vue, parce qu'il y a le travail, il y a la famille, on grandit, on change, on déménage, on évolue. C'est pas qu'on veut plus se voir, mais on n'a plus le temps, on n'a plus l'occasion. Et tout d'un coup, après peut-être quelques années, on se souvient, tiens, mais cette amitié, cet ami, qui est-il, où est-il, que fait-il? Et comment faire pour si un jour, tiens, on reprend contact avec lui, on se dit, tiens, on voudrait le redécouvrir, on voudrait le connaître à nouveau, savoir qui il est. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une petite bouffe avec lui, mais oui, on va l'inviter à manger en bon belge, hein. On va bien passer à la maison, on va manger, on va se retrouver autour d'une table. Et c'est pas qu'on voulait plus se parler, hein, y a pas de problème, mais c'est que la vie a fait qu'on n'avait plus le temps de se voir. Et ma question derrière, c'est jusqu'où la vie m'a parfois éloigné de Jésus? Peut-être d'une amitié, à un moment où je l'ai rencontré, je me suis converti et je faisais peut-être des choses folles avec lui. J'étais fou amoureux, j'étais prêt à faire plein de choses pour lui, j'étais passionné. Et puis la vie a fait que ben, il y a eu le travail, il y a eu ci, il y a eu ça, il y a eu plein de choses. Il y a eu des engagements à droite, à gauche. On a voulu même faire plein de choses pour lui. Peut-être même on le sert, mais il y a tellement qu'au final, on perd cette amitié parce qu'on ne se voit plus. L'amitié s'entretient par le temps. C'est comme dans un couple. Si on ne se parle plus et qu'on ne prend plus du temps ensemble, ben, on perd cette relation et pour finir, on ne se connaît plus. On vit dans la même maison, mais on ne se connaît plus. Et parfois, on dit Jésus, il est là, mais je ne le connais plus. Il est là, il l'a dit, mais je ne sais pas qui il est. Je l'ai perdu de vue. Et ce qui est fou, c'est que dans notre texte, justement, on a parlé d'amitié tout à l'heure, c'est que Jésus, lui, nous devance dans cette amitié. Parce que alors qu'il nous dirait, on se dirait, mais ça serait bien qu'on l'invite à la maison, hein. On pourrait se dire, ça serait bien qu'on prenne du temps avec lui, peut-être ce soir on rentre, on va dans notre chambre, on s'enferme, puis on prend du temps avec lui, on dit, Seigneur, c'est vrai que l'amitié qu'on avait ensemble dans le temps, elle me manque, et j'aimerais qu'on se retrouve, j'aimerais qu'on refasse, on reparte en mission ensemble, j'aimerais qu'on aille dire au monde combien tu es merveilleux. Et tout ce que tu voudrais faire. Et vous savez, comme Jésus, il est bon. Je ne sais pas si vous avez vu ce qu'on a lu dans notre texte. Jésus, il nous devance. Apocalypse 3, verset 20. Regardez comme Jésus est un ami fidèle et tendre. Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il est déjà là. Il est déjà là. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je ferai quoi? Jésus dit ça. Je souperai avec lui. et lui avec moi. Jésus n'attend qu'une chose, c'est cette amitié. Il attend que ça. Parce que dans ce temps avec lui, d'amitié, ce qu'il veut tout simplement faire, c'est venir nous rejoindre autour de la table. On va prendre la table en plus. C'est lui qui a instauré en plus. Et alors que peut-être je me sens sec, peut-être je viens à lui, je ne me sens pas digne. Mais il a déjà payé le prix pour ça, donc j'y ai le droit. Je peux venir. On a, oh, c'est merveilleux, il fait bien les choses. Tout est bien placé. Peut-être je me sens sec, parce que peut-être, oui, grâce à ça, en fait, il vide ma vie. Mais il faut encore que je la remplisse de quelque chose. Ce n'est pas le tout de la vider. La croix me permet de vider, mais elle me donne accès encore à plus. Peut-être je me sens sec, peut-être je me dis, mais je sais que je suis pardonné, mais il me manque encore quelque chose. Et ce que le Seigneur veut qu'on fasse, c'est dans la prière. Vous savez ce qu'il leur dit avant de partir en mission ? Jésus leur donne les ordres, et il leur dit quoi ? Vous allez recevoir une puissance. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire avant même de partir ? Il dit, partez, mais restez. Pourquoi il leur dit de rester ? C'est au verset 4. Pourquoi il dit de rester ? Oui, mais comment ? Il dit d'attendre le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement ? Prier depuis l'ascension jusqu'à la Pentecôte, non-stop, ils vont prier. Persévérer dans la prière pour se laisser remplir. Et parfois dans nos vies, on va près du Seigneur et on prie un petit peu, une minute, deux minutes. Et puis on se dit, mais il ne se passe pas grand-chose. On est dans la société, on appuie sur un bouton, vous voyez quand on va au Pizza Hut, maintenant à volonté, on appuie, ça coule, puis le verre est rempli en deux secondes. Mais si on veut vraiment remplir le verre, il faut déjà s'approcher de la bouteille. Et regardez ce que vous remarquez, le verre il fait rien. Il se passe rien du verre, il bouge pas. Et on peut même le mettre sur la table, je vais pas le faire parce que je voulais faire quelque chose en plus. Le verre, il bouge pas, il fait rien. Il doit attendre, il doit se mettre juste sous la bouteille et s'attendre à ce que l'eau coule. Il est même pas sûr qu'elle va couler, hein. Regardez, il est pas sûr, il doute là, regardez, il est pas sûr, il sait pas. Il dit rien même. Il attend. Jusqu'au jour, il dit, mais il est ouvert. La différence, c'est qu'il est ouvert. Il est pas fermé. Parfois dans nos vies, on est fermé. On est plutôt comme ça parfois dans nos vies, hein. On aspire tout ce qu'il y a partout dans le monde. Mais on n'arrive pas à aller vers Dieu, on est bloqué. Il faudrait juste se laisser retourner. D'ailleurs, la conversion, c'est ça. Métanoïa, changement de direction. Hop, j'improvise là. Et le truc, c'est pas juste de rester deux secondes et hop, oh, voilà, Seigneur, c'est bon, je suis rempli, je suis bien. Hein, souvent, c'est ça, parfois, on vient le dimanche à l'église et puis on se dit, ça y est, je suis rempli pour la semaine. Mais Seigneur, il ne veut pas nous donner un petit peu, qui je vais désaltérer avec ça. Je bois un petit coup. J'avais soif. Mais c'est vite vide. Le verre se vide. Et donc, le lendemain, de nouveau, j'ai plus rien. Et si je fais chaque jour un petit peu, ça va vite se vider. Qu'est-ce que le Seigneur veut ? C'est remplir. C'est que nous puissions rester là, en dessous de lui, et qu'on le laisse. Regardez comme ça prend du temps. Il y a des moments où on est distrait. L'ennemi nous distrait. On oublie. Puis ça se vide de nouveau. Et puis non, il veut qu'on reste, qu'on maintienne, qu'on se concentre, qu'on soit concentré jusqu'à ce que ce soit rempli. Qu'on se remplisse, on se laisse remplir. Ce qu'il veut, et encore, est-ce que là, c'est rempli ? C'est rempli, ça ? Il faut que ça déborde. Il faut que l'eau remplisse. Nous, on il demande d'être rempli. Il dit en Éphésiens 5, soyez remplis de l'Esprit. Il dit d'ailleurs, pas de vin, pour faire le lien. Pas de vin, c'est de la débauche. Mais rempli de l'Esprit, rempli, pour qu'il y ait quoi ? Au final ? Oh, ça déborde. Et qu'est-ce qui se passe quand ça déborde ? Tout de suite la réaction, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Ça dérange ? Il en a mis partout, mais quel mal élevé ! Ça dérange ! Quand on déborde, ça dérange ! On en met partout, on répand l'eau du Seigneur, il y en a partout ! Ça déborde de nous, on ne peut même plus l'arrêter, ça coule, regarde même j'essaye de tenir le verre, ça coule encore. Imaginez que je reste encore en dessous, ça va encore couler, ça ne va pas s'arrêter. Mais ça dépend de quoi ? Si je reste en dessous de lui, donc je peux très bien arrêter, voilà, c'est fini, je suis rempli, je suis content. Et me contenter encore de ça ? Mais il veut encore faire plus ! Est-ce que nous sommes prêts à aller toujours plus loin avec lui ? Dans nos temps de prière. Et en tant qu'Église aussi. Combien d'heures passons-nous par semaine dans la prière ? En tant que communauté, en tant que croyants, combien d'heures ? Par semaine, par mois ? Les disciples, depuis l'ascension jusqu'à la Pentecôte, ils persévèrent tous ensemble dans la pièce. Seulement, et après ils sont partis. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que nous sommes prêts en tant que communauté, même deux communautés, même peut-être associer la pastorale et dire, nous allons maintenant, peut-être pendant une semaine, un mois, un an, nous tenir dans la prière en attendant la promesse, afin que le Seigneur nous remplisse, que nous débordions, et seulement à ce moment-là, nous pourrons faire quoi? Rentrer dans la stratégie du Seigneur. Quelle est cette stratégie? Commencez à Jérusalem, là où vous êtes, dans votre commune, dans votre région, Judée. Et puis allez même vers la Samarie, vers ceux qui sont peut-être un peu différents au niveau théologique. Ça peut être ça aussi. Les Samaritains, un peu différents des Juifs. Allez vers eux aussi. Et puis après, au-delà même, les étrangers. Peut-être Dieu envoie des musulmans parmi nous. Peut-être Dieu envoie des gens, il ne faut peut-être pas forcément partir à l'étranger, mais il y a des gens parmi nous qui viennent de l'étranger, au-delà des frontières. Mais d'abord, il faut commencer par attendre, prier. Parce que vous savez même quoi? Après la Pentecôte, qu'est-ce qu'ils ont fait une fois qu'ils ont commencé? Acte 3, quel est le premier verset d'acte 3? Ils allaient pour faire quoi, Pierre et Jean? Ils allaient au temple pour prier. Ça ne leur suffisait pas encore d'avoir eu la Pentecôte, il faut encore qu'ils prient. Et même là, justement, en chemin, qu'est-ce qu'ils rencontrent? Quelqu'un qui veut de l'argent. Quelqu'un qui veut de l'argent, il dit, mais nous, on n'en a même pas. Ils n'ont même pas d'argent, ils sont pauvres. Ils leur disent, ils sont honnêtes. Mais ce que nous avons, c'est ça. Et ils ont désaltéré, ils ont dit, ce que nous avons, nous te le donnons, au nom de Jésus. Et il le guérit. Pourquoi ils peuvent le guérir? Parce que Dieu est en eux. L'Esprit de Dieu était en eux. Ce n'est pas eux qui ont guéri. Ils ont dit lui-même, c'est Jésus qui a agi et qui les a guéris. Et acte 4, qu'est-ce qui se passe derrière acte 4? Pierre était en prison, il est libéré, qu'est-ce qu'il fait? Il rejoint les autres qui étaient en train de prier, ils étaient déjà en train de prier, ils louent Dieu comme on l'a fait tout à l'heure, et qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, bon, c'est bon, on peut continuer? Non! Ils prient de nouveau, ils se laissent remplir, et le lieu même tremble, tellement Dieu était présent. Mais après, on ne s'étonne pas qu'il y ait des miracles et des choses qui suivent, honnêtement. Jusqu'où je suis prêt à prier? Est-ce que je me contente de, ou est-ce que je suis prêt à me laisser remplir au point où peut-être il va se passer des trucs dans ma vie que je ne vais pas contrôler. L'eau qui déborde, je ne la contrôlais pas là. Le verre ne contrôlait pas, il ne pouvait pas empêcher l'eau de couler. Est-ce que je suis prêt à peut-être même avoir l'air ridicule, qu'on me juge? C'est ça qui s'est passé. Pourquoi Pierre a été arrêté et mis en prison? C'est parce qu'il s'est fait juger par les religieux de l'époque en disant « c'est pas bien ce que tu fais là. Tu annonces un nouveau message, c'est pas possible, tu ne peux pas faire ça. On veut t'arrêter. » Et une fois qu'il est libéré, il continue encore plus. Seigneur, donne-nous plus d'assurance pour aller encore plus loin. Alors, peut-être pour conclure, parce que je vais conclure. D'ailleurs, je ne sais pas quoi faire de ce verre d'eau. Moi, je vais le mettre là parce qu'il est déjà tout mouillé. J'irai chercher un petit torchon après. Je ferme la bouteille. Peut-être tout simplement, pour terminer, ma question est de nouveau, comment est notre verre ce matin? Dieu nous a fait un appel à dire qu'il est prêt à nous remplir. Il est prêt, il est là, il est disponible, il n'a pas de limite. Est-ce que nous voulons qu'il nous remplisse? Qui veut prendre du temps dans la prière? Commencez par la prière. Vous savez, il y a plein de choses, il y a des milliards de choses à faire sur terre, il y a plein de besoins. Mais le monde s'en occupe déjà. Ce que le monde n'a pas, c'est la prière. C'est notre différence et c'est notre force. C'est la prière. Alors je vais faire juste un appel et peut-être simplement qu'on puisse fermer les yeux et s'il y en a un qui devant Dieu qui dit ben, « Seigneur, moi je veux m'engager dans la prière, je veux vraiment me mettre à prier, peut-être même jeûner pour que déjà dans ma propre vie, j'ôte tout ce qui empêche que tu me remplisses. Et que je prie aussi jusqu'à ce que tu me remplisses pour que je sois tellement débordant que la mission, l'évangélisation, la louange et tout ce qui découle de ton esprit, le royaume, tout simplement un ministère, un appel, toutes ces bénédictions qui viennent du royaume, je n'ai même pas besoin d'aller chercher, elles vont déborder, ça va déborder de moi, tellement tu vas me remplir. C'est toi-même qui vas mettre en moi ce que tu veux que je fasse. Ce ne sera plus une charge, ce sera une joie. Alors voilà, s'il y en a l'un ou l'autre qui vraiment dit, moi je veux lever la main Seigneur, moi je veux m'engager pour toi, je veux me lever dans la prière, je veux vraiment juste lever la main devant Dieu, personne ne regarde, c'est vraiment un engagement devant Dieu, mais au moins lever la main pas comme signe d'engagement, dire déjà j'offre mon bras et puis il y a le reste qui va suivre. Peut-être même les deux bras ça fait comme un verre, si on lève les deux bras vers le ciel c'est comme un verre, mais c'est juste cette idée, je lève la main Seigneur pour dire moi je suis prêt à rentrer là-dedans. Voilà, prenons un temps devant Dieu juste ceux qui veulent répondre à cet appel du Seigneur, de vraiment s'engager, de lever cette main vers Dieu et de dire, voilà, je suis présent Seigneur, si tu as besoin de moi, je veux vraiment m'y consacrer maintenant. Pour l'Église, pour la région, pour cette commune de Tigny, il faut faire quelque chose. Seigneur, tu vois les cœurs qui se tournent vers toi, tu vois peut-être, Seigneur, les vers qui sont retournés, qui peut-être ont encore difficile à se retourner vers toi parce qu'il y a peut-être tellement de choses qui sont lourdes dans nos vies et qui nous empêchent de nous tourner vers toi. Je veux commencer par te prier pour que tu puisses, Seigneur, dans ta toute puissance, nous montrer tous les bénéfices que nous avons à nous tourner vers toi et à recevoir ta bénédiction. Le monde, Seigneur, nous offre tellement de mirages, de faux plaisirs, qui au final, le lendemain, on est sec. Mais Seigneur, quand on se laisse remplir par toi, il y a une joie qui déborde, il y a une paix qui déborde, il y a une justice qui déborde, il y a une sainteté qui déborde. Le fruit de l'Esprit grandit lorsque nous te laissons œuvrer. Des dons commencent à se manifester en nous. Des ministères se lèvent, des gens se sentent appelés et veulent aller jusqu'au fin fond du monde pour annoncer ta parole. L'évangélisation découle. Alors Seigneur, aide-nous Seigneur. Et moi je veux lever la main le premier Seigneur, pour que tu ôtes de ma vie tout ce qui est moi, tout ce qui empêche de te suivre et de se laisser remplir par toi. Et je veux vraiment que te demander que tu remplisses ma vie toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et qu'à aucun moment je me dise, ah enfin j'ai atteint mon but. Non. Parce que nous ne pourrons jamais te contenir entièrement, Seigneur. Nous avons besoin de toujours plus de toi et de renouveler cela. Même Jésus, Seigneur, passait parfois, quand il devait prendre une grosse décision, une nuit dans la prière. Et à ses disciples, il dira même, vous n'êtes même pas capable de veiller une heure. Et nous, parfois, Seigneur, on a du mal à prier quelques minutes. Seigneur, change nos mentalités, change nos cœurs. Afin que nous soyons disposés à ce que toi tu veux faire dans nos vies et que nous nous laissions remplir afin de pouvoir porter cette eau rafraîchissante. Comme Ésaïe 61 lui dit, Seigneur tu m'as oint pour porter de bonnes nouvelles, pour libérer les captifs, pour changer les vêtements de deuil en vêtements de joie. C'est à ça que tu nous appelles Seigneur, à porter ta bonne nouvelle afin que tu sois glorifié sur cette terre et que nous soyons témoins de toi. Dans notre région et au-delà. Dans le nom de Jésus. Amen.